François Revel portait sa lassitude sur le sien, dont il était heureux d'être le président. Il y allait volontiers, il m'en rapportait beaucoup de détails, beaucoup d'anecdotes, de souvenirs, de marques d'attachement. Et comme j'imagine que le président, il a écrit un essai, vous savez, qui est sous-titré « Contre le présidentialisme à la française », n'étant donc pas un président à la française, j'imagine qu'il a été un président ouvert et efficace. Alors merci Pierre Rigoulot pour cette introduction. Je ne suis pas sûr, en revanche, que ceux qui sont là, vous, mesdames et messieurs, vous deviez remercier Pierre Rigoulot d'avoir organisé cette rencontre, tant je ne suis pas le mieux placé pour parler de Jean-François Revel. Ceux qui n'ont pas connu Jean-François Revel attendent, de façon très légitime, un portrait intellectuel, moral, physique c'est peut-être inutile, affectif également, littéraire, de Jean-François Revel. J'en suis tout à fait incapable, ne l'ayant connu que tard, partiellement, et n'ayant pas profité de cet effet de génération si puissant, dont j'imagine que Olivier Todd ne fera pas tout à l'heure. Ceux donc qui n'ont pas connu Jean-François Revel seront nécessairement frustrés. Ceux qui l'ont connu personnellement seront déçus, car, comme je viens de le dire, je ne peux pas et je ne veux pas faire un tour trop rapide de Jean-François Revel, et donc les uns seront frustrés, les autres déçus. Mais tous, mesdames et messieurs, vous serez irrités. Vous serez irrités pourquoi? Eh bien parce que devant rendre un témoignage, et un témoignage qui est personnel, je ne vois pas comment faire autrement que de parler à la première personne. Et je vais donc parler de lui en parlant de moi. Une petite première personne qui s'adresse à une grande personnalité, mais ne m'en veuillez pas si j'emprunte à ma mémoire qui n'est pas aussi fidèle que celle sur laquelle pouvait compter Jean-François Revel, pour vous rendre compte de quelques moments que j'ai vécu depuis 15 ans, 16 ans, avec lui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 27 ou le 28 mars dernier, dans un déjeuner, je crois que Olivier était là. J'ai dû lui parler encore au téléphone quelques jours, au début d'avril, donc 3 semaines avant son décès, il y a donc 6 mois. 6 mois, au bout de 6 mois, il est difficile de vous exprimer tout à fait. Pourquoi? Parce que employer le passé est trop fréquent, est trop récent. Jean-François Revel n'est pas mort tout à fait de cette mort qui fait que la syntaxe passe du présent à l'imparfait ou au passé. L'imparfait qui est parti simple. Et d'autre part, le présent lui-même, au bout de 6 mois, est déjà ne convient pas. Je vais donc naviguer dans une langue dont j'espère que vous la comprendrez, surtout si mon débit n'est pas trop rapide, mais je pense que ça va se terminer à mesure que le temps va passer. Voilà, je voulais faire cette mise au point pour commencer, parce que vous n'aurez pas sur quoi vous vous attendez, mais j'espère que peut-être vous aurez ce à quoi vous ne vous attendez pas. En amitié, dans les rencontres, il y a souvent une scène primitive. Cette scène primitive, je la revois comme si c'était hier. C'était en réalité au printemps de 1991. C'est là que tout a vraiment commencé pour moi. Je parle de la première cartouche. Nous sortions, Jean-François Revel et moi, de je ne sais quelle réunion au point. Lui était éditorialiste, moi pigiste, dit, moyen. Nous descendions ensemble la rue de Rennes sur le coup de midi. Nous eûmes soif, lui surtout. Et afin de poursuivre une conversation qui s'annonçait prometteuse, nous nous accoudâmes au comptoir. Le patron, je le compris vite, reconnut un fidèle client. Deux coupes de champagne furent prestement glissées devant nous, à portée de main. J'avais 42 ans, et je dois confesser que jusqu'alors, je n'avais jamais consommé de champagne d'apéritif dans un débit de boisson. Ce fut la première initiation qui devint de Jean-François Revel, et beaucoup d'autres devaient suivre. Après que la tournée apéritive eut été renouvelée, fut triplée. J'ai pris conscience, il m'en restait le temps et la lucidité, j'ai pris conscience que j'entrais dans un monde, que j'abordais un continent nouveau. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un petit mot dans lequel les amis de Revel me reconnaîtront infailliblement et que je vous. Je vous propose que nous nous retrouvions à 13h chez Vedel, entre parenthèses, pas le voisin, mais cuisinier. 19 rue du Ranton dans le 15e, il peut bien faire. Comme chaque fois, mais j'ignorais encore, le rendez-vous fut confirmé l'avant-veille à 9h pétant, c'était toujours là, 9h25, 9h, puis le matin même encore, pour ne jamais rien laisser au hasard, de façon à ce que le rendez-vous soit confirmé, et d'autre part, je sois déjà mis en bouche par un exposé historique et gastronomique de la maison qu'il allait me faire connaître. C'est ainsi, j'ai fait le calcul pour vous, non pour fréquenté 33 ou 34 restaurants avec Jean-François, dont chacun au moins 3 ou 4 fois, donc je pense avoir fait 120 à 150 déjeuners, ce qui ne constitue aucune présomption de familiarité, mais qui même constitue une expérience à la fois physique et affective, pour moi sans précédent et jusqu'à présent sans postérité. Et donc sous ces auspices, un peu insolite, même si je connaissais déjà un peu Revel et surtout sa réputation, c'est ainsi que s'est engagée une des plus belles aventures humaines qui nous sont arrivées, l'amitié de Jean-François Revel, l'amitié de ce bonhomme. Pourquoi bonhomme? Bonhomme n'est pas une expression qui appartient au vocabulaire revêtu. Mais je le prononce en écho à une anecdote qui avait, un incident, qui avait frappé Jean-François Revel, dont je crois, qui est inscrit dans mes mémoires, et qui doit également se trouver dans ses mémoires. Vous me pardonnerez si de ma mémoire à ses mémoires, il y a souvent un va-et-vient, parce que bien souvent, il m'a raconté des histoires qui figurent ensuite dans ses mémoires. La majorité des histoires qui figurent dans ses mémoires, je précise, n'ont pas été racontées, mais certaines se revendent. C'était peu après l'avènement de Mitterrand, en 1981. Revel avait demandé à Paul Guimard, qui est l'auteur inoubliable des choses de la vie, qui connaissait du temps de l'Express comme un sympathique compagnon. Tout ce que je vous dis, c'est Revel qui me l'a raconté, je ne joue pas d'épithète, je ne joue pas personnel. Guimard, qui était chargé de mission à l'Élysée à ce moment-là, et Revel lui a demandé une intervention pour une inscription de son fils Nicolas dans un lycée, ce qu'on appelle aujourd'hui une dérogation à la carte scolaire. Guimard s'est exécuté très volontiers, il a dit à Revel qu'il remerciait, écoute, c'est bien naturel, tout ça c'est bien normal, tu sais ce qui compte, c'est le bonhomme. C'est le bonhomme, cette expression a frappé Jean-François Revel. Je crois que c'est pour ça qu'il a repris dans ses mémoires, que je devrais connaître par cœur pour les avoir beaucoup lu sous beaucoup de formes, mais ma mémoire est assez belle. Jean-François a pensé que Guimard signifiait ainsi que accepter de rendre service à un ancien camarade qui avait abandonné la bonne cause, celle de la gauche unie, en dépit de ce péché, de cette erreur, eh bien, il lui avait conservé sa bienveillance. Et Revel y a vu la condescendance et en a conçu une certaine énergie. Alors c'est une interprétation, je crois que ce n'est pas la bonne. Quelquefois Jean-François surinterprétait. J'ai assez bien connu Paul Guimard, j'ai eu parlé de cet incident des années après, il avait naturellement totalement oublié, mais une interprétation qui me paraît possible. J'ai l'habitude du comportement même de Jean-François dans sa vie. Ni le stalinisme de Louis Althusser, ni le gauchisme échevelé de René Scherrer, son camarade de promotion de la revue de 1943, qui fut mon professeur de thèse historique, n'altérèrent jamais l'affection qu'il a cessé de porter à ces deux très chers amis. Pour lui, ce qui comptait aussi, d'abord peut-être, c'était le bonhomme. Et c'est de ce bonhomme que je voudrais surtout vous parler ce soir, parce que ce qui reste, tout reste. Ce qui compte le plus à mes yeux aujourd'hui, c'est le bonhomme. Alors ce bonhomme, je l'ai rencontré au moyen des livres. Dans mon expérience, c'est partiel, mais dans les livres, elle est forte. D'abord ses livres à lui, et ensuite ceux des autres. Vous allez voir comment. C'est là que je l'ai rencontré, fréquenté, admiré. Et... Alors dans le monde de la chaîne du livre, il a occupé, vous le savez, successivement ou en même temps, les quatre fonctions principales qui sont la lecture, le lecteur, la critique, l'édition et naturellement l'écrit. Alors un lecteur, vous le savez, il a été dès son très jeune âge, en partie grâce à son père, on a raconté 20 fois là aussi, il y a un peu aussi je crois dans ses mémoires, qui lui a rendu ce service que tous les pères devraient rendre et que tous les pères ne rendent pas, qui est le goût de la lecture personnelle, de la lecture exigeante, parfois au-dessus de l'âge de celui qui l'entreprend. Et c'est pourquoi, c'est au nom des livres, je pense, des livres, de la bibliothèque paternelle, qui était, comment dirais-je, qui surclassait la fonction sociale même de Joseph Ricard. C'est dans ses livres de famille qu'il a trouvé, au fond, les moyens de rester en bon terme avec son père, en dépit d'une très violente rupture qui s'est produite en 1940, pour des oppositions d'idées. Et il a toujours conservé envers son père une respectueuse affection, et vous avez remarqué que le voleur dans la maison vide, les mémoires sont dédiées. Enfin, que Joseph Ricard est un des deux éducateurs du voleur dans la maison. En second lieu, ses maîtres jésuites, auxquels il a adressé des reproches certainement mérités, lui ont donné aussi le goût de la lecture des textes originaux plutôt que celle des commentateurs. C'était un trait qui était toujours resté. sévèrement inculqué. Il n'y a pas pour lui de livres résumés, on ne fait pas de fiches sur des livres, on les lit et on les écrit du début à la fin, ou alors on fait autre chose. Et ces jésuites ont droit à sa reconnaissance aussi parce qu'ils lui ont enfourné une connaissance du grec et du latin qui faisait que des décennies plus tard, il pouvait traduire à livre ouvert et donner la citation appropriée aussi bien de Platon que d'Archiloque, d'Horace surtout, ou de Sénèque. Et ce qui m'a toujours frappé chez Jean-François, et c'est ce qu'il a rencontré, c'est cette maîtrise de au moins 4 langues étrangères, et aussi, c'est plus rare, de 2 langues mortes. Il a beaucoup milité avec Jean-Pierre Vernant, qui ne lui ressemble pas, avec la Plume des Romilly, qui ne lui ressemble pas non plus, et avec d'autres, pour que ces langues mortes demeurent vivantes dans l'enseignement secondaire. C'est une tâche qu'on ne connaît pas, il s'est beaucoup appliqué dans les dernières années de sa vie, les 10 dernières, pour intervenir auprès des différents ministères, pour que les langues mortes ne disparaissent pas tout à fait. Pour ce qui est de la lecture, puisque je suis là pour témoigner, ne m'en veuillez pas, j'ai pratiqué Revel comme membre d'un jury littéraire. C'est en effet en 1992 que François Furet, avec ma très modeste assistance, a composé, a formé le jury du prix Guizot, qui a présidé jusqu'à sa mort. C'est un prix qui est décerné tous les 2 ans à un ouvrage dont on peut penser que l'illustre historien et homme d'État l'aurait jugé digne d'intérêt. Si j'ai le temps, je vous parlerai de la parenté intellectuelle et par le sens entre Guizot et Revel, ne connaît pas évidemment une chose directe. Alors, Revel, c'est naturellement l'un des premiers à être recruté. C'est là que Revel m'a raconté Furet et Furet m'a raconté Revel. Ce sera l'occasion aussi d'autres développements. Il a été un des premiers recrutés. Je m'empresse de dire, puisque Emmanuel Leroy l'a donné là, que notre ami Emmanuel a été recruté dans le même mouvement. Mais, de sorte sur Revel. Et aussitôt, il a été recruté, d'abord par amitié, mais aussi parce que Furet savait à quel point son conseil était précieux. Vous savez ce que sont les jurys littéraires, pour ceux qui les fréquentaient ou qui les subissaient. On reçoit des livres déjà triés par un secrétaire, on lit comme on peut, on prend beaucoup d'initiatives, on attend que ça se passe, et c'est le jour venu qu'on se délivre. Ayant été moi-même secrétaire général de ce prix Guizot pendant les 8 premières années de son existence, je peux vous dire que j'ai eu affaire à un jury d'un calibre tout à fait exceptionnel. Parce que non seulement il lisait tout, du début à la fin, tout ce que je lui envoyais, même plus que moi, en plus, il faisait des propositions, il signalait des auteurs originaux, des livres souvent rares, peu connus. Et les jours de délibération, il faut voir ce que c'était qu'il révèle dans un déjeuner de jury littéraire. Pour toutes sortes de raisons. Il a argumenté avec une vigueur qui a longtemps impressionné ceux qui ne le connaissaient pas, avant que les uns et les autres, bon, j'avais pu le faire, mais que les autres reconnaissent à quel point sa probité, à quel point sa gentillesse l'emportait. Ça vaut bien, c'est Jérémy. La grandeur d'âme. La grandeur d'âme est quelque chose, c'est un terme rentré de l'Antiquité, et vous savez que Revel baignait intellectuellement et affectivement aussi esthétiquement dans la sagesse antique. C'est en tout cas ce qu'il a tenu à me dire dans le dernier entretien que j'ai fait avec lui, mais je l'avais déjà constaté, comme beaucoup d'autres, puisque je parle ici de la collectivité qu'il a connue aussi bien et mieux que moi. De cette grandeur d'âme, il y a un exemple aussi qu'il avait frappé dont j'étais témoin. Dont j'étais témoin, puis là, je le raconte. En 1994, apparut une histoire de la France au XXe siècle dirigée et écrite par deux professeurs de Sciences Po, Serge Bertal et Pierre Milda, où il était écrit que la nouvelle droite avait bénéficié, je cite, du ralliement d'anciens intellectuels venus de la gauche, comme Jean-François Revel. Ce Jean-François Revel en conçut, vous imaginez, une juste et vive irritation. Il a exprimé dans ses mémoires, je crois, avec beaucoup de vigueur, mais dans les conversations particulières, avec moi en tout cas, avec une vigueur décuplée. Vous reconnaîtrez Jean-François certainement en ceci, que dans cette phrase, ce qui l'avait le plus choqué, c'était d'anciens intellectuels venus de la gauche. Parce que, sous-entendu, on est intellectuel à gauche, et lorsqu'on passe, supposément, censément à droite, on devient intellectuel honoraire, on perd la qualité d'être intellectuel en actif. C'était là-dessus, c'était ce qui lui était le plus insupportable, même si l'allusion à la nouvelle droite ne lui était pas agréable. Je crois que c'était une allusion à une relation de cause à effet, avec la sortie de... Je ne connais pas les mœurs de la tribu, puisqu'il est plus courtois que j'attends. Alors je continue pour montrer la grandeur d'âme de Jean-François. En effet, en l'an 2000, Jean-François fut un des plus éloquents soutiens de ce même Milda pour sa très belle biographie de Mussolini, que notre jury Guizot a donc couronné en 2000. C'est qu'entre-temps, à la faveur d'une rencontre sur un trottoir inopiné, à laquelle j'ai assisté, même que j'ai provoqué, parce que j'ai dit à Voilà, Mirza, qu'est-ce qu'on fait? Et on est allé vers lui, il connaissait un peu Carlinda, il connaissait très bien. Et Mirza a reconnu son erreur, l'a regretté et a présenté des excuses, pas plus qu'il n'en fallait, mais pas moins. Et dès lors, Revel l'a reconnu comme un des siens et est devenu, non pas un ami, mais une relation proche. Et parce que Revel était incapable de. Il était capable de très fortes rancunes. Il avait une mémoire très solide. Et il n'oubliait rien de ce qu'il, des coups qu'il avait déportés. C'est-à-dire ceux qui ont reçu des coups de lui, moi et moi, équivalents. Mais il n'était pas du tout. La rancœur n'était pas son fait. C'est-à-dire qu'il avait une capacité d'oubli devant la faute pardonnée, qui est le meilleur des hommes bons, et de ce bonhomme-là en particulier. Juste pour en finir avec ce prix d'ISO, mais dont j'aime bien parler, c'est grâce à Jean-François encore que Simon Ley s'est obtenu en 2004, et ça a été un grand bonheur pour Jean-François, la dernière fois qu'il est allé sur place, au Malfiché, chez Guido, remettre le prix à Simon Ley. Enfin, nous avons eu un discours merveilleux, un discours supériquement Simon Ley, magnifique. Et on ne peut pas ne pas prononcer le nom de Simon Ley sans ressentir un sentiment d'admiration, d'estime et d'affection, que là encore je dois remettre, puisque j'avais lu un peu, étant plus jeune, des anecdotes qui étaient là-haut. Enfin, il m'a fait comprendre ce que c'était que Simon Ley, notamment dans ses autres activités que celle de cinéma. Et enfin, en cette année 2006, Revel, nous sommes réunis pour la dernière fois le 10 mars au jury d'ISO. Il a eu la force, il a pris la peine de me donner son avis par écrit pour que je le lise à nos collègues. Et c'est Alain Cicquecraud qui a été couronné pour nous autres modernes, comme Jean-François l'avait souhaité, comme nous le souhaitions. Et le prix sera remis pour la première fois sans Jean-François. Dans quelques jours, chez Guizot, dans le Calvados. Alors, cette compétence, cette capacité de lecture, il les a mis aussi au service de son activité de critique, un grand observateur, puis à l'Express de façon intermittente, si coupe-point. Mais là, je n'ai pas de témoignage particulier à rendre, d'autres viendront peut-être. Mais c'est très important, l'activité critique de Revel, parce que c'est l'exercice de son esprit. Une activité critique qui, vous savez, ne se contentait pas, se bornait pas à la littérature, mais c'est tendait aussi à l'art et à la gastronomie. Et à d'autres objets qui plus. En troisième lieu, troisième fonction du livre, Revel a été éditeur. Vous le savez, mais on ne sait pas toujours avec quelle ampleur. Ça a été près de 20 ans de son activité, avec d'abord René Julliard et Christian Bourbois, puis chez Robert Laffont, avec Jean-Jacques Pauvert. Il a acquis là une compétence dans, que j'ai pu vérifier en donnant son éditeur à mon tour, pour ce qui était de, je crois d'un titre, je reviendrai, d'une maquette, de la rédaction du quatrième de couverture, bref, de tous ces éléments de détails qui font que le livre ne soit pas simplement des signes et des pages accumulées, mais un objet qui est destiné à vivre et à trouver son public, Revel était, avait un tour de main, je ne dis pas un surpassable, mais très expérimenté. Un domaine dans lequel il n'était pas très bon, c'était, mais il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça, Todd est comme ça, il n'était pas très bon devant les représentants, parce qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas se livrer à cet exercice factice et difficile, qui est de résumer, même pas de résumer, d'essayer de faire aimer un bouquin en 7 ou 8 phrases, en 5 minutes, devant des gens dont, effectivement, le contenu du livre n'apporte pas. Il commençait un discours professoral, je lui donnais un coup de pied, je le faisais comme ça, comme le pied dans un instant légal, ensuite je lui donnais un petit coup de pied dans la cheville, pour qu'il s'arrête parce qu'il s'engageait dans une voie qui était tout à fait négative par rapport à l'objet de la réunion, et c'était vrai aussi pour ses entretiens avec. Je ne dis pas les journalistes, mais des journalistes. J'ai assisté à beaucoup de scènes où des journalistes venaient en me disant « Jean-François Revel, s'il vous plaît, raconte, dites-nous en quelques instants ce qu'il y a dans votre livre. » Et lui, les renvoyait très sèchement en disant « Lisez ce livre. Et si vous pouvez me poser des questions, revenez après et je vérifierai que vous avez fait effectivement votre travail de lecteur, comme j'ai fait le mien, qui est le travail d'auteur. » On a oublié surtout, je crois, dans l'activité éditoriale de Revel, sa merveilleuse collection, parce qu'il est en partie indisponible, de la collection Liberté, commencée chez Jacques Pauvert, poursuivie chez Laffont. Nous avions projet chez Plomb de faire une anthologie du pamphlet, qu'il aurait évidemment mené de bout en bout, avec une grande préface, quand on avait montré linéairement. Et puis, le temps ne nous en a pas été donné. Pourquoi? Ce n'est pas le temps sur le temps. C'est que tout de même, au milieu des années 1990, je ne sais pas si ceux qui ont connu Revel corroboreront mon impression, Revel s'est senti pressé. Là. Dans les années 92-94, il s'est senti pressé, me semble-t-il, par une sorte d'urgence. Il allait à ses 70 ans. L'urgence, c'est souvent la marque, d'ailleurs, de de grands esprits, de grands caractères. C'est à 70 ans. Plus tard, c'est à 70 ans que François Guizot a commencé à envisager la rédaction de ses mémoires et de faire un flanc de ses travaux pour le temps qui reste. Et c'est dans ces années-là, 92, 93, 94, que Revel aussi a commencé à se dire qu'il fallait faire certains livres et peut-être pas en faire d'autres. J'en reviendrai peut-être, si on a le temps, sur les analogies, je vous le disais, entre Guizot et Revel, mais ce serait peut-être un peu long. C'est donc en mai 94, à 70 ans, que Revel m'a indiqué, et là c'est pour moi un moment d'un peu d'émotion, mais que je le cacherai, à titre personnel et confidentiel, ce qu'il conviendrait de faire, c'est la première fois que je m'en parlais, il conviendrait de faire si la mort, ou si un empêchement de santé, laissait le manuscrit qu'il avait en train dans l'état où il se trouve. C'est une lettre très saisissante. En plus de 30 années d'édition, je n'ai jamais reçu de marque de confiance et d'affection plus précieuse que celle-là, qui me fasse plus d'honneur. Et au fond, ma seule lettre d'accréditation auprès de vous ce soir, c'est cette lettre de Jean-François Revel de mai 1994, envisageant ce qui se passerait ici. Alors, s'il a fait cette démarche parce qu'il s'agissait des mémoires, auxquelles j'ai tout de suite à parvenir, c'est peut-être surtout parce que ce livre-là était celui auquel il attachait le plus de prix. Et nous voici arrivés en quatrième et dernier lieu à Revel auteur, à Revel écrivain. Alors nous sommes si habitués, si je puis dire, à l'activité d'essayiste, d'analyste politique, au sens large, de Jean-François Revel, à l'abondance de sa production, 31 livres, que peut-être nous ne songeons pas assez à deux choses. La première, c'est qu'il n'est venu qu'assez tard à l'écriture, à 33 ans, ce qui pour quelqu'un d'un dynamisme comme on le connaît, est assez tardif. Et d'autre part, que le premier livre qu'il a publié sous le nom de Revel, ce pseudonyme qui est devenu ensuite son nom légal, je pense que vous connaissez tous l'origine du nom de Revel, sinon pour l'acheter. Cela, est-ce que c'est un mot connu? Est-ce que vous savez pourquoi, sauf quelques-uns qui sont en train de moi, connaître pas pourquoi Revel s'appelle Revel? Alors, c'est ni le port de la Baltique, c'est ni le chef-lieu de Garonne, c'est parce que se trouvait rue de Montpensier, à la fin des années 50, quand il est revenu de Florence, un restaurant qui s'appelait Chez Revel. Et c'est là que se tenait, qui avait, me disait Jean-François, j'ai retenu l'expression, confectionnait une daube irréfutable. Et c'est dans ce restaurant Chez Revel de la rue de Montpensier, qu'il a été décidé par un groupe d'amis, je ne sais pas si tu y étais, Olivier, mais il y était Pierre Morin, Pierre-Olivier, d'autres encore, qui étaient fondalistes, cherchaient un pseudonyme pour ne pas, étant professeur, interférer son nom de professeur d'enseignant avec celui de son nom d'écrivain, au cas où il aurait eu quelques succès, sans quoi il ne s'attendait pas tellement. Et donc on a choisi Revel, qui avait l'avantage aussi d'être la même initiale que son nom de naissance, Ricard. Donc son premier livre n'a pas du tout été un essai, ça a été un roman, qui est l'histoire de Flore, paru en février 1957, chez Julien. Et donc, notons ce point, il n'est venu véritablement à la politique, au sens large, qu'en 1970 à peu près, avec son dixième livre, le dixième, qui est « Ni Marx, ni Jésus ». Donc il a commencé autrement que dans la situation, la position intellectuelle et magistrale que nous lui avons connue dans les 20, dans les 30, dans les 35 dernières années. Il a commencé par un petit roman. Mais après tout, Chateaubriand a commencé par de la poésie, Balzac a commencé par du théâtre, et vous savez tous, surtout ici, Karl Marx a commencé par un roman humoristique qui s'appelle Scorpion et Félix, dont je ne dis pas qu'il soit dans la bibliothèque. Je viens à l'essentiel pour moi et malheureusement pour vous, c'est en juillet 1993, d'accord avec Olivier Orban, le président de Plomb, on ne voudrait pas omettre le nom car il a joué dans cette aventure, jusqu'aujourd'hui, un rôle important. C'est en juillet 1993 que la décision d'entreprendre les mémoires a été prise. Je ne dirais pas que je l'ai suggéré, parce qu'il était bien capable d'y penser tout seul. Mais la chance d'un éditeur et aussi d'un auteur par le fait même, c'est de dire les mots qui conviennent au moment opportun pour qu'une idée qui était à l'état latent, à l'état naissant, qui touche certainement bien dans le cerveau de Robert, prenne corps. Donc c'est une idée qui n'avait rien d'original, mais encore fallait-il passer à l'acte. Moi, je les concevais comme les mémoires, un peu de Guizot, pour revenir à lui. J'ai offert à ce moment-là, Jean-François Revel, les 8 tomes des mémoires de Jean-François Guizot, dont il m'a dit gentiment qu'il lisait quelques pages tous les soirs, sans doute, car le soir, il ne lisait pas beaucoup. Et j'ai conservé aussi comme les mémoires de Raymond Aron, c'est-à-dire des mémoires des intellectuels historiques et personnels et intimes. Et je pense que c'était en juillet 93, parce qu'il m'a écrit un jour de juillet 93, comme il écrivait très souvent à ses amis le soir après une conversation, il faisait un petit mot pour en reprendre la substance, pour être sûr que les propos post-prandio, étaient bien ceux qui, le lendemain, étaient toujours valables. Il m'écrivait « Votre projet m'intéresse beaucoup en lui-même, mais quel boulot !» Et il ne croyait pas si bien. Or, le moment était, je crois, favorable, à la fois dans la vie de Jean-François Revel et dans son trajet intellectuel. Après le grand succès du Regain démocratique, qui avait paru chez Fayard en février 1992, avait paru l'absolutisme inefficace, un essai court, un peu de circonstances, qui avait été publié en octobre 1992, qui avait trouvé aussi son public, et cet essai avait paru à la suite de la conversation, à la suite des 3 coupes de champagne, que j'ai raconté en commençant mon propos. C'est là que je lui avais soufflé, l'idée de cet essai. Je tiens encore là à souligner l'immense probité de Jean-François Revel. L'idée de cet essai m'était venue à la lecture d'un de ses éditoriaux du Point. Donc, l'idée lui appartenait. Il aurait parfaitement pu la proposer à des éditeurs plus considérables que moi, comme les amis Côte Durand, François Ferny, à des maisons qu'il avait déjà publiées, comme Fayard ou Grasset. J'en connais plus d'un qui l'aurait fait, j'en connais plus d'un qui l'a fait. Prendre une idée échangée, la publier là où le considérer comme le normal. Mais pas lui. Pas lui. Cette idée était commune. J'étais émerdé. Ça paraît quelque chose, ça paraît rien, ça paraît presque rien. Mais une délicatesse comme celle-là, des scrupules comme cela, c'était Jean-François Revel. Et je ne dis pas que je ne l'ai rencontré que chez lui. Mais dans un enjeu si important qu'est l'écriture d'un livre, pour un auteur comme lui, accessoirement, mais pas seulement, pour un petit éditeur comme moi, c'était quelque chose. Et c'est un hommage appuyé que je tiens à rendre à cette mémoire, parce que ces traits-là ne sont pas toujours les plus connus, pour qui voyait ce sanglier, le souffle brutal de l'extérieur qui labourait le terrain, quelquefois en portant des coups à ceux qu'il avait sur son chemin. Bref, en 1993, Revel était saturé d'essais politiques et de lances rompues à leur sujet. Toute l'année 92 avait été occupée au lancement de ces 2 livres et aux polémiques qui s'étaient ensuivies. Je ne sais pas si vous avez eu le spectacle de Jean-François Revel dans une émission de radio-télévision lorsqu'il est en colère. Moi, je ne l'avais jamais vu, je l'avais à la fin 1992. Et c'était à une émission de quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Cavada, un nom que je pense que ça m'a oublié aujourd'hui. Mais c'était il y a. C'était donc en 92, j'ai vu 93. Je me souviens, j'étais accompagné pour la première fois dans un studio et elle était sujet junior, j'imagine que c'était le. Je vous dis efficace, mais la discussion portait sur le rôle de la loi dans une société démocratique. En tout cas, ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il y avait Nicolas Sarkozy. Et alors, pourquoi, peut-être pour son essai sur Georges Mandel ou pour autre chose, peut-être pour rien, ce qui ne m'empêchait pas qu'il fût là. Et Revel, vous le voyez, vous l'imaginez, carré dans son fauteuil, tenant ses accoudoirs, comme ça, laissant parler Sarkozy, brusquement. Ceux qui n'ont pas vu, même les mots sont faibles, ceux qui n'ont pas vu brusquement se penchant en avant et disant, en substance, en vérité, jeune crétin, vous n'avez absolument rien compris à ce que c'est que la loi. Tout le monde a été médusé, y compris le meneur de jeu, et Sarkozy s'est tué jusqu'à la fin de l'émission. Au fond, cette émission, ce souvenir très précis que je ne parviens pas à vous faire partager tout à fait, me faisait penser à ce que disait le premier consul. Général Kléber. Rien n'était plus beau que Kléber un jour de bataille, c'était le dieu Mars en personne. Eh bien, Jean-François Revel, un jour de bataille, toute chose égale d'ailleurs, mutatis mutandis, comme dit Sénèque, eh bien, c'était aussi un spectacle. Bref, en 1993, à l'été, il était prêt pour une entreprise ambitieuse, la plus ambitieuse entreprise qui soit pour un auteur, parler du monde à travers soi et parler de soi au monde. Ce fut le sujet de beaucoup d'anxiété. Parce qu'il fallait trouver un rythme, il fallait trouver un ton, il fallait trouver un rythme, un ton, le ton et le rythme du récit. et qui n'avait jamais vraiment pratiqué jusque-là, sauf dans l'histoire de Flore, qui avait été d'ailleurs un échec. C'est un des rares livres de Ravel qui n'a jamais été mis en poche ni réédité. Il fallait entrer dans un autre monde. Et c'est alors, à la rentrée 93, et pendant plusieurs, pendant deux ans, qu'a commencé sous mes yeux un travail, un spectacle comme jamais je n'en avais vu auparavant. Une sorte de nageur entre deux rives, pour reprendre l'expression de Chateaubriand, qui déployait un effort puissant, un effort régulier, un effort médité, qui brassait l'océan de ses souvenirs pour les ordonner, pour les trier, pour les mettre en scène, pour les commenter, pour ne pas se perdre en route, pour varier le propos. Ce travail d'écrivain que je voyais une ou deux fois par semaine me laisse encore aujourd'hui, après beaucoup d'années, pantois. Pantois par ses puissances, ses capacités à mobiliser sa mémoire, très peu de documents, et à tenir son propos alors à peu près là où il voulait être. Il lui fallait oublier ses vieux amis Saint-Augustin et Montaigne, les vieilles intimes connaissances. Il lui fallait oublier Rousseau et Chateaubriand, et en même temps, il fallait ne pas leur être inférieur. Je vous cite ces quatre noms, pas par hasard, mais bien sûr, parce qu'il m'en a parlé plus d'une fois, il m'en a écrit. Et l'ambition de Revel était bien, justement, de faire œuvre de littérature, et non pas de document, non pas de produire un document pour les historiens. Et c'est pourquoi il a écarté, à mon regret, ma suggestion de composer un index des noms de personnes à la fin des mémoires. Il a eu pour ça deux arguments imparables, dont le second n'est pas le moins puissant, et puis celui qui vous rejouera le plus. Le premier, c'est que François Guizot n'avait pas mis l'index à ses mémoires, puisque je lui avais donné. Il ne s'agissait pas que je trahisse l'inspiration que je lui avais soufflée, mais surtout, il m'a index ou pas index, de toute façon, Jean Daniel trouvera qu'il n'a jamais suffisamment d'entrées à son nom. Et en effet, c'est bien ce qui s'est produit. La plainte a été émise, elle a été reçue, elle n'a pas été entièrement acceptée. Pour Jean Daniel, je pourrais vous raconter une anecdote pour vous égayer. Moi, j'ai eu, et je conserve, un réel attachement pour Jean Daniel, avec lequel j'ai connu Revel jadis en beaucoup de temps, plusieurs manières, peu importe lesquelles. Et Revel, qu'il avait bien connu aussi, tout autrement, me parlait de lui depuis le début en termes que je trouvais trop serrés, que ses frères aimés. Je trouvais que Revel exagérait sur Jean Daniel, qu'après tout, la vanité n'est pas un crime, elle n'est même pas un délit, et que chacun se débrouille comme il peut avec sa propre psyché. Alors Revel a réagi d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas, et voilà ce qu'il m'a écrit en février 92. Après, toutes les lettres appartiennent à leur destinataire, et puis je ne peux pas faire un usage trop excessif des lettres que j'ai reçues, mais enfin celle-là, je crois qu'elle peut être livrée à l'histoire. D'ailleurs, je me propose de la dire à Jean-Daniel lui-même, et je verrai. Alors, il m'écrivait ceci. Ému par vos propos sur le chagrin de Jean-Daniel devant ma présumée froideur à son endroit, et n'écoutant que mes instincts philanthropiques, je l'ai aussitôt invité à déjeuner, couvert de compliments et inondé de petits cadeaux. Rien n'a réussi à le dégeler, et rien ne pourrait y parvenir, je crois, sauf la seule chose à laquelle il tienne, et la seule que je ne puisse pas lui donner, écrire quelque part que c'est à lui qu'on voit la chute du communisme. Ceci n'est pas pour accabler quelqu'un qui vous parle, qui a par ailleurs est un immense journaliste. Mais cette lettre, vous voyez, nous donne à toucher du doigt un immense côté de Jean-François Revel. Je me demande qui a vécu, n'a pas disparu l'un des derniers très grands praticiens de la grande tradition française, et étrangère d'ailleurs, de la correspondance. Commencer avec Cicéron et Sénèque, qui connaissaient par cœur, et qui, je ne sais pas si elle se termine avec lui, mais véritablement, les lettres de Jean-François Revel sont quelque chose qui mérite de faire partie de son œuvre complète. Et pour faire un jour le livre complet sur Jean-François Revel, il faudra simplement du temps, si c'est possible. Il faudrait avoir d'abord réuni toutes ces lettres qu'il a envoyées. Et c'est une tâche énorme, parce que je m'aperçois en consultant les uns et les autres que depuis 1945, au moins, et peut-être avant, c'est tout un continent que ces lettres qu'il écrivait tous les jours, une dizaine, une quinzaine, là encore, comme François Guizot, tous les matins, quel que fût l'emploi du temps. Donc j'attire l'attention des réveillants de demain et d'après-demain sur le fait que sans la détention, la transcription et la connaissance de cette correspondance, un aspect très important de Jean-François Revel, non seulement la chronique la deuxième moitié du XXe siècle, mais la connaissance de son tempérament, de son talent d'épistolier, donc vous êtes là, c'est une lettre au pied, un camarade, un ami comme ça, je suis peut-être sur un pintard, mais les lettres en forme, j'en ai quelques-unes plus en forme, d'autres n'ont rien davantage, ça appartient à cette tradition qui se perd et sur laquelle les historiens de littérature, les historiens tout court, ne pourront plus travailler. C'est l'infâme email qui a remplacé et qui est pour nous un support sans lequel nous sommes perdus. Nous autres. Alors, une fois que Revel a eu balisé son terrain, a eu choisi ce qu'il y a dans ses souvenirs, il m'a expliqué sa méthode. Alors, la méthode est une méthode qui n'était pas accoutumée et qui venait de son ami, un romancier italien qui s'appelle Carlo Cassola. Je ne sais pas si notre ami Alberto Toscano le connaît, mais Carlo Cassola était un ami, un romancier italien. Est-ce qu'il est célèbre, Alberto?
Il est célèbre, oui.
Alors, tu nous diras peut-être exactement qui il est. Et c'est la technique de l'abandon à la narration. Je ne sais pas comment on dit ça en italien, mais Ravel, évidemment, totalement bilingue en italien, mais il a traduit pour moi l'abandon à la narration, c'est-à-dire le premier jet qui coule de source le plus possible sans se préoccuper ni de la longueur, ni de l'arrêter. Alors pendant environ 18 mois, les pages se sont accumulées avec une régularité métronomique. Et naturellement, Revel écrit toute sa correspondance, tous ses livres, écrit tout, toujours à la main. Il n'a jamais eu ni de télécopie, ni de traitement de texte. J'ignore, Olivier, s'il a jamais rédigé un papier avec une machine à écrire.
Jamais.
Ça m'étonnerait. Il a eu un téléphone portable tout à la fin de sa vie pour des raisons de sécurité familiale. Tout ça, il était tout à fait capable de se servir. Et donc, il écrivait tout à la main. Là, à cause de l'abandon à la narration, il a changé de façon de faire. Quand il écrivait ses autres livres, il m'adressait le manuscrit, au sens propre, à la main. J'y portais des remarques au crayon rouge. D'ailleurs, il faisait ensuite saisir son texte défini. Ouais. Pour ses mémoires, c'était le contraire. Il me prévenait la veille ou l'avant-veille. Il arrivait chez Plomb, passe un surplus, toujours une demi-heure avant l'heure fixée. Et comme je le savais, ce n'avait pas l'inconvénient. Avec une mine de conspirateur, parce qu'il voulait protéger le secret de son travail, bon, donc contre qui, mais enfin, il me mettait dans la main une très grosse enveloppe en papier crasse, très épaisse, contenant quelques dizaines de pages déjà dactylographiées. Il s'assurait que je l'ai caché dans un endroit connu moi seul. Il m'avait indiqué dans l'appartement du Quai de Bourbon où était la cachette où se trouvait le manuscrit en cas de malaise. Et donc, il y avait ce rituel qui se produisait à peu près toutes les 15 ou toutes les 3 semaines, après quoi il nous disait de dire que nous avions déjeuné d'un bon temps. Et c'est comme ça que j'ai reçu, du début de 1994 à la fin de 1995, 16 livres, non pas parties ou chapitres, mais des livres. Il a voulu les appeler livres pour bien montrer qu'il s'agissait d'une œuvre littéraire et non pas comme dans ses autres ouvrages philosophiques ou politiques, des chapitres ou des parties. On a raboté, avec le concours des amis, on a raboté surtout les débuts, les mises au point, parce que il semble que dans les essais, le début soit plus facile à faire et la fin plus difficile. Dans les mémoires, disent les mémorialistes que j'ai cités, pas beaucoup, mais quelques-uns, c'est le début le plus difficile. Parce qu'on est pris dans la masse des souvenirs et qu'on ne se croit pas autorisé à décanter. Et on livre, dans les premiers chapitres, une masse un peu indifférente. Il a fallu beaucoup tailler, beaucoup couper, et c'était un peu la première fois, pour les livres qui ont précédé, pour les livres qui ont suivi, j'ai jamais eu, et les amis non plus, véritablement à beaucoup tailler, ça n'écrit jamais, même tailler ou supprimer, chez Ravel, sont des phrases qui se répètent comme ça. Là, il a fallu tailler des dizaines de pages. Et c'est donc à la fin de novembre 1996 que le bon à tirer a été donné. Alors, le titre était déjà arrêté, mais ça a été très difficile. Ça a été une épreuve entre nous. Alors, Ravel était très serré en matière de titre. Il nous a expliqué, il avait raison, qu'un essai appelle un titre court, idéalement deux mots. Si possible, un substantif qui identifie la matière, et puis un adjectif qui caractérise l'esprit dans lequel on traite. La tentation totalitaire, la grande parade, l'orgueil démocratique, l'absolutisme inefficace, bref, des titres brefs, un substantif et un qualificatif. On nous a expliqué ensuite que pour les romans, pour les mémoires, on pouvait se permettre un titre plus littéraire, plus suggestif. Et il nous a proposé, entre guillemets, « Que me veux-tu ?»« Que me veux-tu ?» pour l'interrogation. Je suis accroché longtemps, plusieurs semaines. Évidemment, chez Plomb, à Olivier Orban, à Jean-Coutimoine, à moi-même, ça nous a paru un peu trop élitiste et allusif. Tout le monde n'a pas pris dans l'esprit les œuvres complètes de Verlaine. Il a dit, bon, si c'est comme ça, je reviens avec autre chose. Alors, il est revenu avec Le voleur dans la maison mixte, comme vous savez. Là, les bras nous en sont tombés. Mais il a été absolument intraitable. Ce sera ça ou ce sera. Bon. Nous avons simplement obtenu de pouvoir mettre, en fait, c'est gros, donc on s'en révèle, en très gros mémoire, et de façon plus discrète, Le voleur dans la maison. Nous avons pensé qu'avec Jean-Paul s'en révèle et mémoire, la partie était à peu près égale. Et c'est ainsi que l'ouvrage a paru en janvier 1980. Alors, Revel avait l'habitude du succès. Et ce livre-là n'est pas celui des siens qui s'est au total le plus vendu, même si le score atteint a été considérable. Mais pas plus important. Mais je crois, je suis sûr qu'il a apporté un bonheur particulier à son auteur. D'abord parce que Jean Revel a relevé le défi qui s'était lancé en sortant, non pas complètement, mais beaucoup, de sa production, de son style, de sa façon de faire habituelle. Ensuite, autre motif de bonheur, c'est là qu'il a été reconnu comme un écrivain littéraire, si j'ose le pléonasme, comme un écrivain littéraire à part entière, ce qui n'était pas complètement jusque-là. Et cette consécration qui lui manquait, elle a dit qu'il lui manquait, en dépit des succès antérieurs, cette consécration fut couronnée par son élection à l'Académie française le 19 juillet 1997, quelques mois après l'apparition des mémoires qui furent à coup sûr un puissant agent électoral. D'ailleurs, je l'ai vu. J'étais l'instrument, j'étais l'intermédiaire comme agent de l'agent électoral pour faire parvenir les mémoires là où ils convenaient. L'Académie, c'est une grande affaire, et ce n'est pas une affaire qui va être traitée par la dérive. J'ai été beaucoup mêlé avant pour la campagne, après parce que j'ai été secrétaire du comité de l'été, qui est une liturgie un peu coûteuse, et surtout assez longue. Et je ne vais pas assumer, il y a une scène qui est tellement dans ma mémoire et qui est pour moi tellement révèle que je vais la raconter. Ma chemise va raconter. Ah, c'était donc le 19 juin 1997. Nous savions que le résultat du scrutin académique devait avoir lieu à 16h, à peu près à 16h. C'est ce que vous avez annoncé. Alors, Jean-François Revel arrive, blazer bleu marine croisé, pantalon crème, chaussée, mocassin noir, petit mocassin noir, il a le pied très petit, une chemise Vichy, et une cravate et pochette assortie. Nous enfermons dans mon petit bureau. Je donne pour instruction de ne passer comme coup de téléphone que ceux qui pourraient provenir de l'Institut. Il s'assied en face de moi, à 15h, une heure à l'avance. D'habitude, avec Jean-François, la conversation s'installe avec confiance, sympathie et beaucoup de facilité. Et là, elle peinait énormément à venir. Et à vrai dire, mon cher et illustre ami était fébrile. Alors, c'est très chaud, c'est vrai, mais il était fébrile. Il était fébrile, m'a dit juste après, comme il était fébrile à la veille des résultats du concours de la Rudune en juin 1943. À 16h, le téléphone sonne, je m'empare du combiné, je le tends à Jean-François, puisque ça ne pouvait être que l'Institut, il le repousse comme ça, je prends la communication, le directeur de cabinet du secrétaire perpétuel de l'État de Banco, me dit je voudrais parler à M. Revel, et j'ai senti au grain de voix de ce monsieur, qui s'appelle Laurent Personne, j'ai senti à son grain de voix que l'affaire était dans le sac. J'ai fait un énorme clin d'œil à Jean-François, je lui ai tendu le téléphone, il m'a répondu par un énorme soupir de bonheur, dont j'ai encore l'écho dans l'oreille, que je ne saurais pas vous faire partager. Il était là, je n'ai jamais vu à ce point Revel jeune homme. C'était l'adolescence même. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si on n'a pas vu ça, et alors surtout, les mémoires ont attiré à Revel un nouveau public auquel il était très sensible. C'est le livre qui lui a valu le plus de lettres. Ça a fait connaître toute sa richesse de personnalité. Qui savait que ce prétendu obsessionnel anticommunisme était l'intime de Bunuel, avait été l'intime de Bunuel, de Breton, d'Althusser, qui était l'ami de Maria Sosa, de Gazopa, de Cioran, qui était un amateur éclairé en matière d'art, notamment de peinture, et puis qu'il avait tant de goût pour la galanterie aussi. Tout le monde ne savait pas, et encore, il n'en dit pas, il n'est pas le quart de la moitié, il n'en dit pas. Aussi, ce livre lui a valu, je crois, une considération nouvelle. Sa personne, après les mémoires, après la réception des mémoires, a commencé à devenir, je ne dis pas consensuel, mais reconnu et accepté, même si les différentes idées subsistaient, chez des gens qui ne lui étaient pas, qui lui étaient jusque-là hostiles, et qui ont commencé à parler de sa personne en termes tout à fait différents. Et je crois que ces idées suivent. Je lisais ce matin le dernier numéro de la revue de débat chez Gallimard, Michel Zinoc, qui n'est vraiment pas d'origine de la même famille que Revel, fait un article sur la situation politique française actuellement. Il dit, il y a une définition de l'homme d'État que je vous recommande parce qu'elle est seule de son espèce, qui est parfaite, c'est celle de Jean-François Revel. C'est quelque chose de tout à fait inimaginable à lire, il y a encore une dizaine d'années sous ce prix. Et c'est quelque chose que nous constatons de plus en plus. Je crois que ça a été un apaisement aussi pour Jean-François que ces mémoires qu'il installait et qui en même temps découvraient quelqu'un qui n'était pas toujours celui qu'on croyait. Nous sommes donc en 1997, Revel a alors 73 ans, ce qui est peu et beaucoup. On aurait pu en tout cas le croire épuisé par une campagne médiatique en fait de presse infernale qui a eu lieu tout au long du printemps et de l'été 1997. On aurait pu le croire, j'espérais qu'il fût décidé à prendre un juste repos dans sa jolie maison de Bretagne. Et donc, quelles ne furent pas ma surprise et mon admiration lorsqu'il m'annonce apparaître le 25 juillet, l'envoyé de sa commune de Bretagne, en Bretagne, le 25 juillet 1997, le bouquet est encore chaud, j'ai commencé à écrire sur le sujet dont nous avons parlé, je pense l'appeler la Grande Parade. Quelle vitalité, quelle incroyable vitalité. Et en effet, la Grande Parade, le titre est déjà arrêté, le plan était fait en quelques semaines, et la Grande Parade a paru en janvier 2000. Et entre-temps, il s'était passé beaucoup de choses dans la vie intellectuelle de Jean-François Revel, dont le récit m'entraînerait bien tard. Alors, je voudrais pour terminer, et avant de passer à une discussion qui permettra, je pense, d'éclairer ou modifier d'autres points de la personnalité de Revel, souligner trois éléments qui me paraissent décisifs dans son parcours. C'est parce qu'il me paraît décisif, c'est que les conversations ou les lectures que j'ai eues avec lui auprès de lui m'ont convaincu que ces expériences avaient été, ces éléments avaient été pour lui décisifs. Parce qu'il me l'a dit que je me permets de vous le dire. Je suis là encore qu'un passeur. Peut-être pas habile, mais de bonne foi. Alors le premier élément, c'est la résistance et le rôle qu'il y a à l'autre. On l'a découvert sous cet aspect un peu méconnu dans ses mémoires, il s'exprime d'ailleurs avec beaucoup de modestie. On en a découvert un Revel physiquement courageux, ce qui n'est pas donné à tout le monde, par la connaissance de cause. Et puis je dirais surtout intellectuellement, politiquement, moralement, il en a conçu pour Nadine, pour Vichy, pour tout ce qui ferait la collaboration, une aversion, à mon avis, plus fondamentale que son hostilité au communisme. Dans le perpétuel débat sur l'analogie entre nazisme et soviétisme, chez Revel, mais là peut-être aurais-je des contradicteurs, parce que il a pu s'exprimer autrement à d'autres moments. Pour lui, le parallèle n'était pas parfait. Il a gardé des relations amicales avec d'anciens communistes, ou avec des communistes qui étaient restés, j'ai parlé tout à l'heure d'Althusser, c'est vraiment un stalinien, en tout cas dans les écrits. Simplement, si une attaque contre le totalitarisme se sont dirigées exclusivement, on peut le dire, contre le communisme, mais ce qu'il y a avec, c'est qu'évidemment, celui des artisans bien présent dans les faits et dans les esprits, alors que l'autre extrême n'est plus jamais là, en tout cas dans son esprit et dans la réalité. Il disait souvent, je n'ai pas combattu un totalitarisme pour composer avec un autre. Et Jacques Julliard a une phrase que je trouve heureuse au moment de sa mort. Jacques Julliard a écrit, il n'avait pas supporté, je trouve que peut-être très facile, il n'avait pas supporté la dissymétrie qui existe en France entre le devoir de mémoire concernant le nazisme et le devoir d'oubli qui recouvre le passé staliniste. C'est une citation très juste qui explique beaucoup la démarche intellectuelle de Revel. Ce que Julliard a fini, c'est-à-dire l'état des premiers à venir. Donc la résistance a été pour lui un élément, une expérience déterminante. Dans le même ordre d'idée, j'ajouterai son année d'enseignement, on la connaît mal, à la Médersin de Tlemcen. Il a été professeur en Algérie en 1947-48, il m'en a souvent parlé, un peu dans ses mémoires, j'ai eu beaucoup de conversations, peut-être pas assez avec lui, et s'il a pris dès 1957-58 très fortement position pour l'indépendance de l'Algérie, s'il y a la différence de Jean-Daniel, puisqu'on le nommait, mais de beaucoup d'autres intellectuels engagés, lui, Revel a signé le manifeste des, en 1760, le manifeste des 121 pour le droit à la soumission, je crois que le soutien de Tlemcen y était pour quelque chose. Enfin, j'en suis sûr, puisque c'est le premier. Vous savez d'ailleurs, ça, il en parle peu dans ses mémoires, on ne peut pas tout dire, je crois qu'il a droit de prendre et de dire, ces années 57-58 sont celles où, véritablement, il s'exprime le plus, en tout cas, comme ce qu'on appelle les progressistes, enfin, très à gauche. C'est l'époque où il appelle, une citation là que j'ai retrouvée dans un tout petit journal, il appelait à une action révolutionnaire profonde dirigée contre le colonialisme et le capitalisme sous toute leur forme. Il n'aurait pas repris ce langage des années plus tard. À l'époque, il avait des positions proches de Pierre Vidal-Naquet, que je salue parce qu'il est récemment disparu. Parce que je l'aimais beaucoup. La deuxième expérience importante de Revel, là aussi, Todd dira des choses, c'est son entrée en journalisme professionnel et politique. Donc, son entrée à l'Express, où il a été éditorialiste depuis 66 et directeur, vous savez, entre 78 et 80. C'est là, me semble-t-il, que se sont épanouis, je ne dis pas son nom, mais se sont épanouis son exigence de rigueur et sa soif d'information vérifiée. Il me semble que ce nouveau Revel, qui est lié à l'apparition de Monarque de Jésus en 70, c'est cette époque que Revel a pris l'habitude salutaire de lire tous les jours deux ou trois numéros de la presse internationale dans deux ou trois langues. C'est là qu'il a pris aussi cette obligation de voyager pour consulter, hors des frontières surtout, les experts, les décideurs, et surtout, c'est ce qui me concerne, c'est mon témoignage personnel, de se montrer intraitable sur les noms, sur les chiffres, sur les faits, craquant impitoyablement l'erreur qui pour lui était bien plus qu'une faute. Il me souvient de son désespoir, au sens propre du terme, même de sa honte, lorsqu'un lecteur perspicace lui a fait remarquer que dans ses mémoires, il avait commis l'impardonnable erreur de confondre Félix Ravetson avec Charles Renouilly. Vous connaissez tous sur l'antenne. Il avait prêté une citation de l'un, qui était à l'autre. J'ai partagé cette erreur, car mon rôle était aussi de repérer ces choses-là. Mais j'avoue que ma connaissance de Ravetson m'empêchait d'être tout à fait expert. Et puis, dernier élément, je terminerai là, mais je crois qu'il faut le mentionner, c'est l'alcoolisme. J'en parle ici de son alcoolisme, d'abord parce que c'est un fait capital. Parce que son œuvre ne s'explique pas complètement sans cet élément. Je me permets aussi de dire, parce que le premier chapitre du second volume de ses mémoires, qui ne paraîtra jamais, est consacré à une description quasiment phénoménologique de ce qu'il appelait ce fauve tapis en moi, qui était là. Ce fauve, il y était tapis depuis le début des années 50, quand il fréquentait, il disait ça dans ses mémoires, ce cinglé de Gurdjieff, chez qui la vodka participait beaucoup de la démarche initiatique. Les deux années mexicaines, c'est lui qui me l'a dit aussi, ont installé un peu définitivement, mais tout à fait, cette addiction à l'alcool avec laquelle elle révèle rusa jusqu'à la fin, jamais tout à fait gagnant, jamais vraiment perdant non plus. Et au fond, s'il se montra plus fort que cet ennemi terrible, qui fait le plus terrible qu'il lui a affronté, c'est que chez lui, le besoin, la passion du travail intellectuel, principalement de l'écriture, l'emportait sur tout le reste. Il avait besoin d'écrire pour ne pas sombrer dans l'alcool, et il lui fallait, pour écrire, ne pas boire. Et de fait, jamais l'alcool, durablement, n'entrava son activité, ni n'affaiblit ses facultés. C'est vrai que pour finir, physiquement, la cirrhose l'a emporté, mais mentalement, Revel a eu le dessus. Et il a eu le dessus jusqu'au bout. L'ampleur de son œuvre s'explique aussi par cela. Quand il écrivait un, deux, trois livres par an, c'est naturellement porté par ses idées, porté par son tempérament. Mais je l'ai vu compris, rétrospectivement, nous avons parlé de ça que vers la fin, dans les trois ou quatre dernières années de sa vie, j'ai compris que là aussi, il y avait à la fois un moteur et un antidote. Donc, combattant et résistant, c'était bien rebelle, contre la bêtise, contre l'ignorance, contre le mensonge. Vous savez, ces livres sont là, c'est pourquoi je ne prends pas ces livres, ils sont disponibles, contre l'alcool. Une sorte d'immense grand Sisyphe. Alors, est-ce que c'était un Sisyphe heureux, comme disait Camus, je crois? Je disais ça, il me disait non. Sisyphe, mais pas toujours très heureux. Parce que le combat était toujours à reprendre. Il a été jusqu'à la fin. Mon dernier mot sera celui de bonté. D'Althusser, Revel a écrit qu'il était, je cite, un homme d'une foncière bonté. Et c'est ça qu'en définitive, Jean-François Revel retenait de quelqu'un. Et le recevant sous la coupole le 11 juin 1998, Marc Fumaroli dit de Revel, et à Revel, que son inspiration profonde, c'est la bonté. Et c'était vrai. C'est la bonté. Et c'était vrai. Et je vous remercie.